politique, j'espère, je vais vous donner ce soir. En principe, c'est un sujet qui devrait plutôt vous stimuler. Enfin, avant la nuit, c'est peut-être pas le plus souhaitable. Enfin bon, on fait comme on peut. La passion le soir, bon, c'est quelque chose qui impressionne l'âme. Qui impressionne l'âme. Alors ça peut préparer peut-être votre méditation demain matin. Je ne sais pas le sujet de méditation de demain matin, qu'aura choisi le Père qui dirigera l'oraison, mais c'est vrai que ce soir c'est une méditation sur la passion, une réflexion sur la passion. Il est toujours bon dans notre vie chrétienne de penser à la passion, puisque l'Église nous y encourage dans le rosaire déjà, mystère douloureux tous les trois jours au moins. Puis surtout parce que on vous a parlé, je crois, un peu ce soir de la messe, je suppose, ou enfin en tout cas du sacrifice de la croix, parce que la passion est ce qui nous a mérité le salut, et donc elle a un lien à tous les sacrements, à la source de tous les sacrements, de l'efficacité de tous les sacrements, de l'efficacité de toutes les grâces que nous recevons. C'est les mérites de la passion qui sont conférés à l'âme. Nous le disons dans l'oraison de l'Angélus, par le mérite de sa passion et de sa croix, nous soyons conduits à la gloire de sa résurrection. Alors, d'abord, on va centrer un peu le sujet, c'est très court en plus pour vous en parler. C'est vrai que la passion, normalement, lorsqu'on prêchait sur la passion au carême, les prédicateurs, les jésuites, les rédemptoristes, les capucins, il fallait parler une heure sur la passion et c'était pas trop. Alors là, il faut parler une bonne demi-heure. Alors, il y a quatre aspects, quatre choses que nous pourrions dégager de la passion, quatre étapes de la passion, peut-être on pourrait dire comme ça, mais je vais m'intéresser en fait qu'à la deuxième et à la troisième étape. Ce qu'on appelle normalement la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ensemble des souffrances de notre Seigneur qu'il connut, l'ensemble des souffrances de son corps, de son âme, qu'il connut donc, on peut dire, de Gethsémani jusqu'à sa mort, hein, jusqu'à ce qu'il incline la tête sur la croix. Et vous le verrez, il y a déjà là-dedans, on pourrait dire, deux passions concurrentes. Une passion de l'âme qui est continuelle et qui est la plus forte au moment de l'agonie, à tel point qu'il a dit à Sainte Marguerite Marie, « C'est ici où j'ai le plus souffert intérieurement, quand tout le reste de ma passion... » Nous reprendrons ça tout à l'heure, pour Gethsémani. C'est ici où j'ai le plus souffert intérieurement quand tout le reste de ma passion. Puis donc le reste de cette passion, à partir de l'arrestation, jusqu'à donc la mort sur la croix, donc c'est, je dirais, deuxième et troisième partie de la passion. Saint Alphonse Marie de Ligori, dans une de ses méditations, nous dit qu'en fait, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ a commencé dès le sein de sa mère. Pas dès sa naissance, dès le sein de sa mère. Parce qu'il avait, et il y a de très belles méditations du cardinal de Bérulle là-dessus d'ailleurs, il avait connaissance, il avait vision de Dieu d'abord, puis connaissance de ce pourquoi il venait habiter 9 mois sous le cœur de sa mère, et ce pourquoi, ce qu'il allait vivre durant les 30 ans, les 33 ans de sa vie. Donc on peut dire que la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est une longue passion au sens large. L'Église, l'usage de l'Église, sans doute aussi notre Seigneur Jésus-Christ qui a parlé de son heure, l'heure de la femme qui enfante, l'heure de Jésus-Christ qui nous enfante au salut, son heure, mon heure, c'est plus spécialement évidemment à partir de l'arrestation. Il a d'abord vécu intérieurement toute la passion dans l'agonie, si bien que sur une méditation de la passion pourrait très bien, comme a fait très bien le Padre Pio, il a fait toute une méditation sur l'agonie à Gethsémani. En fait, dedans, vous avez toute la passion. Pourquoi ? Parce que notre Seigneur se voit acteur de tout ce qu'il va souffrir dans son corps et dans son âme. Il le vit déjà, il le voit. Et d'un certain point de vue, c'est pour ça que c'est pire encore que de le vivre. D'ailleurs, on le voit bien. Il suit, transpire, puis à partir de l'arrestation, on a l'impression que c'est lui qui mène le jeu. Voilà. Ceux qui ont vu, beaucoup de remous autour de ce film sur la passion de M. Gibson, là, bon, je pense que ça a dû ressortir ce fait que c'est lui, notre Seigneur, qui vraiment dirige sa passion. Oui, dirige sa passion, eh oui. Alors passons toute la vie de notre Seigneur. Et vous voyez, et tout ce que nous voyons à l'extérieur des souffrances de notre Seigneur avant Gethsémani, c'est le reflet de ce qui déjà y vit intérieurement. Oui. Notre Seigneur, la circoncision, la présentation au temple, les souffrances de ses parents. C'est pas facile d'être le père ou la mère d'un enfant qui vient racheter les péchés du monde. La fuite en Égypte, la présentation au temple, le recouvrement, les 3 jours qui sont comme une annonce, comme une annonce. Alors souvent on dit, oh, 3 jours, là il répond un peu durement à ses parents, vous saviez pas que je devais être aux affaires de mon père ? L'impression qu'il est dur, etc. Et c'est oublier la compassion de notre Seigneur. Notre Seigneur savait très bien ce que souffrait la Sainte Vierge Saint-Joseph. Et c'est impossible qu'un enfant aussi bon et sensible que lui n'ait pas ressenti la souffrance de sa mère et de son père. Mais il voyait encore au-delà. Mais il l'a eu cette souffrance, certainement. Il l'a ressenti parce qu'il l'aimait beaucoup, très intensément, son père et sa mère. Passion, travail humble à Nazareth. Passion, douleur, souffrance, la mort de son père, Saint Joseph. Passion, souffrance aussi, la séparation d'avec sa mère, lorsqu'il a fallu aller à la vie publique, vraiment les affaires de mon père. Il n'a pas pu ne pas savoir que ça coûtait beaucoup à sa mère de ne plus avoir ce fils chéri, à la fois Dieu et homme. Souffrance dans la vie publique, vous voyez très bien, on voit très bien ça pendant le carême, on pourrait dire la montée des, quand on voit les conversations qu'il y a dans l'évangile de Saint Jean, et c'est très bien disposé par l'Église dans le temps du carême, cette espèce de montée de haine contre notre Seigneur Jésus-Christ, de désir lui faire du mal, de le tuer. Vous voyez ? Faire souffrir notre Seigneur. Souffrance de Judas à côté de lui, très aimé et prêt à trahir. Souffrance d'incompréhension de ses apôtres. Toujours à demander quand est-ce que tu as ramené le royaume d'Israël, et même à sa résurrection, ils n'ont pas encore compris. Voilà. Donc voilà, première passion déjà, la plus profonde, et puis celle qui va vraiment apparaître dans l'agonie. On va surtout nous intéresser à l'agonie, et peut-être un peu moins à ce qui suit. Et quatrième partie de l'agonie, de la passion, nous terminerons là-dessus, j'espère, sinon vous terminerez dans la retraite, dans votre rosaire. La compassion de Marie. Compassion de Marie. Car Marie a eu, et Jésus a eu, on peut dire, l'agonie de toute sa vie, l'agonie spécialement de Gethsémani. La très sainte Vierge Marie, on peut dire qu'elle a dû avoir les agonies des nuits suivantes. Agonie de jeudi à vendredi, agonie de vendredi à samedi, agonie de samedi à dimanche. De veiller dans la nuit du soleil, couché, aussi la nuit de l'âme, même avec une très vive attente de la résurrection. Et la compassion de Marie éclaire beaucoup la passion de notre Seigneur. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup le temps de vous en parler, quand on a 30 minutes. Entrons dans Gethsémani. Notre Seigneur vient d'offrir pendant la scène, il a montré son amour, il s'est donné lui-même. Il a dû souffrir déjà de voir Judas qui... Donc communier, et puis communier ou communier pas, les pères des fois sont un peu partagés là-dessus. Bon, peu importe, Judas est parti, notre Seigneur, le discours après la scène, ces merveilleuses choses, il fait éclater tout son amour, ce qu'on célèbre le jeudi saint, dans la nuit du jeudi saint jusqu'à minuit souvent, quand on fait l'adoration à l'heure sainte, on peut lire le discours après la scène. Et notre Seigneur prend ses 3 principaux amis, Pierre, Jacques et Jean, pour prier avec lui. Les autres, il les laisse à l'entrée du jardin. Alors, dans la passion, tous les auteurs, tous les saints nous disent, il est très important que la passion, nous ne la regardions pas comme un événement passé, mais c'est un événement présent. Et quand vous faites une méditation sur la passion, ne pensez pas que c'est quelque chose qui s'est passé il y a 20 siècles, nous y étions présents. L'important de la passion, c'est pas de se regarder comme spectateur, ça peut être le risque d'être dans un film, d'avoir un film, il peut être bon, hein, un film ou une lecture, c'est de rester à l'extérieur. Non. Bien comprendre qu'on est acteur, vraiment acteur. Efforçons-nous de considérer, c'est un bon aventure qui dit ça, La passion de notre Seigneur, non pas comme un de ces événements anciens, éloignés, accomplis à Jérusalem il y a des siècles, mais comme un fait présent qui se passe actuellement sous nos yeux. Et Pascal est repris par Padre Pio, historiquement en tout cas. Le Seigneur est toujours en agonie, toujours. Pas au ciel glorieux, mais dans son Église. Une mère qui a perdu son fils depuis des années s'en retrace si vivement les traits qu'elle croit le revoir en telles circonstances comme s'il existait réellement. Eh bien, faisons par piété, par respect pour la passion du Sauveur, ce que la nature inspire au cœur d'une mère. C'est pour ça que l'Église nous conseille, c'est dur la passion. On a peur des fois même, parce que c'est dur, c'est quelque chose qui est dur la passion, c'est vrai. C'est pour ça que l'Église nous le fait passer dans la liturgie ou dans notre rosaire. Voyez Jésus-Christ souffrant non seulement par l'imagination, mais par la foi, parce que c'est le grand mystère destiné par la sagesse divine à détruire en nous le péché. Il est, et il sera jusqu'à la fin des temps, un mystère nouveau pour chacun des hommes. La passion ne vieillit pas, la passion ne perd rien de sa vertu, la passion ne cesse pas d'être féconde, la passion nous offre toujours les fruits de la vie éternelle. Alors tous les auteurs, pour nous rappeler ce premier principe, nous disent ensuite, si vous voulez bien méditer sur la passion, nous devons poser des questions sur la passion. Qui souffre cette passion? C'est très bien, nous avons les conférences Monseigneur qui nous rappellent la divinité de notre Seigneur. Qui souffre cette passion? Qui? Surtout la cause des causes, la cause finale. Pourquoi souffre-t-il cette passion? Pourquoi? Pour qui? Pour la gloire du Père. Pour le rachat des péchés de qui? Tous les hommes et de moi parmi ces hommes. Pour qui? Pourquoi? Comment? Avec quelle intensité? Alors là, description des douleurs et corporelles et spirituelles. Jusqu'où? Voilà. C'est les questions qu'on a. Qui? Qui? Pour qui? Pourquoi? Voilà. Jusqu'où? Comment? Notre Seigneur, donc, Fils de Dieu, entre en prière, et prie très intensément. Tellement intensément, vous savez que donc du sang coule avec de l'eau. C'est une réaction très violente. Les médecins qui ont étudié ça, là, le père Barbet, le docteur Barbet, puis le docteur Clerc aussi maintenant, on dit que ça indique une réaction extrêmement violente. Une émotion intérieure très violente. Qu'est-ce qu'il voit, notre Seigneur? Donc, il voit, ce n'est pas d'abord, comme certains auteurs des fois le laisseraient un peu entendre, il y a un peu la peur de la mort, bien sûr, parce que sa vie est une vie divine et humaine. Il aime sa vie, notre Seigneur. Mais c'est pas d'abord ça. Ça y entre, bien sûr, c'est un des éléments. L'élément principal, c'est la vue de tous les péchés. De tous les péchés avant lui. De tous les péchés avant lui. Et ça fait une grosse marée, hein. Quand on voit aujourd'hui simplement les péchés qui existent sur la terre, là, de 6 ou 7 milliards d'hommes, tout ça. Et tout ça, c'est lui qui doit faire comme si c'était lui qui avait fait. Comme si c'était lui qui était coupable de ça. Et donc, qui est abominable aux yeux de son Père, aux yeux de Dieu. Il voit toute cette marée de péchés, tous les péchés, tous les détails, tous mes péchés de ma vie. Et c'est très important, vous voyez que nos péchés, pas les voir seulement comme enfreindre une loi, même fût-elle la loi divine et la structure vraiment personnelle de notre âme, mais les voir comme ayant fait quelque chose à notre Seigneur. Quand on pêche, ça fait quelque chose à notre Seigneur. Même un péché véniel, ça fait du mal à notre Seigneur. Il nous a vus, il a vu ça, et il a voulu payer pour ça par avance. Payer les arts ou la compte, je ne sais pas comment on dit. La compte. Ah, il voit tout ça. Et il voit que pour payer tout ça, il faut tout le reste de la passion. Tout ce qui va se passer à partir du jardin jusque chez Caïphe, Anne, etc. Il voit tout ça, tout dans le détail. Imaginez, une torture. Bon, déjà, la crainte de la torture, mais savoir qu'est-ce que vont être la torture et, enfin, le voir déjà comme si c'était déjà là, hein, en couleur, et puis bon, hein, c'est vraiment l'horreur. Et certains disent que c'est pour ça que c'est bien pire, parce que vous avez tous remarqué, des fois, même dans une simple angoisse d'examen ou d'entretien ou de visite chez le médecin, l'imagination, c'est pas le cas de notre Seigneur, d'accord, mais l'imagination a tendance à déformer, à amplifier. Ah, c'est déjà un martyr par avance. Ouh là là, moi j'ai pas essayé de le dentiste, déjà la piqûre, les caries, machin. Oh. dents de sagesse enlevées. Bon, pas quoi. Déjà par avance. Puis, bon, des fois, quand il s'agit seulement d'un effort, bah, on s'aperçoit qu'une fois qu'on est dedans, c'était pas si terrible que ça. Bon, et notre Seigneur, il a dû voir ça et dire c'est encore plus terrible que ce que je vois. Quand je vais y être, bon, mon corps va sentir ses clous, ses coups de fouet, etc. Il sent déjà ça, il sait déjà ça. C'est l'horreur. Le film de tout ce qui va lui arriver. Bien sûr qu'il a une force d'âme, puisqu'il est la personne divine. Il voit, il transperce tout ça, il voit au-delà de tout ça. Mais enfin, pendant l'agonie, il voit pas beaucoup au-dessus de tout ça. Hein. Il est étouffé par tout ça, quoi. Le péché, le prix à payer pour le péché. Ah, il prie. Hein, mon Père, que ce calice puisse s'éloigner de moi. Mais que votre volonté soit faite. Il vient trois fois voir les disciples, ils sont endormis. Ils dorment, fatigués. Voilà. Bon, prie pas. Sentir notre Seigneur sans la solitude, l'isolement. C'est vrai, quand on est dans la peine, avoir sortir ses meilleurs amis, ne pas comprendre ce qui nous arrive ou se sentir isolé, c'est pas agréable. Chose importante, nous sommes acteurs de la passion. Oui, acteurs, c'est nous, c'est à cause de nous qui souffre ça, notre Seigneur. Pas oublier sans cesse, à chaque événement de la passion, nous sommes les bénéficiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agonie a été soufferte pour nous, et qu'il y a un mérite pour nous, et qu'il y a une grâce pour nous à regarder cette agonie. Et je dirais, je ne sais pas si j'aurai le temps demain, les résolutions. Il me semble, aujourd'hui, voyez-vous, ou non, c'est la passion de la vie chrétienne, peut-être que je vous parlerai de ça. Aujourd'hui, notre monde est un monde éminemment sujet à l'angoisse, à l'anxiété, à la dépression, au stress, comme on dit. Eh bien, il semble qu'il y a une volonté providentielle de Dieu que nous arrêtions à l'agonie de notre Seigneur. L'agonie de Jésus a un sens tout à fait providentiel aujourd'hui, plus spécial, je pense encore plus qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens détraqués intérieurement, même indépendamment des maladies du corps. Beaucoup de gens détraqués dans leur psychisme, dans leur faculté, eh bien l'agonie est un remède. Les mérites de l'agonie sont un remède. Et donc nous avons un devoir, nous chrétiens qui avons la grâce, qui avons la lumière, qui avons l'attrait pour notre Seigneur, nous avons un devoir d'aller contempler cette agonie pour consoler d'abord notre Seigneur, bien sûr, mais pour obtenir des grâces et pour nous et pour les autres, par rapport à ces angoisses et aux anxiétés qui sont les transes de la société actuelle et des âmes actuelles. A fortiori, celles qui ne sont pas chrétiennes, mais même les chrétiennes, on voit très bien. Ça me semble une angoisse aujourd'hui, des gens, une angoisse très forte. Angoisse, anxiété, peur, etc. Vient la crainte. Alors, il faut aller consoler notre Seigneur, et en le consolant, en le réparant, en faisant l'heure sainte, par exemple, ou en disant souvent nos mystères douloureux, en méditant souvent l'agonie, on trouve la force pour porter nos épreuves intérieures. Force d'âme. Et vous allez le voir surtout au sortir du jardin de l'agonie. C'est magnifique. Notre Seigneur, donc, hein, issu, il voit ses apôtres abandonnés, il revient 3 heures. Et souvent, demander dans l'agonie, qu'est-ce qu'on demande? Alors, on demande contrition parfaite. Très bien, c'est juste, c'est vrai. La force de prier quand on n'a pas du tout envie de prier, qu'on est plein d'angoisse et plein dans la tentation, c'est dans l'agonie qu'on trouve la force. C'est à ce moment-là. Donc, il faut demander, il y en a des tas de grâces dans l'agonie. Un tas. C'est inépuisable. Chaque mystère de Seigneur est inépuisable parce qu'il est vécu par la personne divine. Certainement, une des grâces, la grâce de persévérer dans les états d'âme difficiles, de désolation, de découragement. Voilà. Et on trouve la force. Voilà, la force. Et vous allez voir que cette force, c'est magnifique comment elle est donnée à notre Seigneur. Quand il a été faible, impuissant, accablé, anéanti, alors que les apôtres dormaient, broyés, après 3 heures, il entend du bruit dans le jardin. Levez-vous. C'est plus temps de dormir. Levez-vous. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Quelle force d'âme. C'est moi. Tout le monde par terre. Ego emi. C'est moi. Tout le monde par terre. Revêtu de la force de son Père. Pendant 3 heures, il a gémi. Alors, voyez, il y a une leçon importante pour nous. Pouvons penser, quand nous sommes dans la désolation, le découragement, la tentation, allez, tout est perdu, là, bon, c'est déjà presque le goût de l'enfer sous nos pieds, etc. pas de futur, là, comme on dit en anglais, bon, rien, pas, tout est bouché, bon. C'est le moment de Dieu. Un instant de plus, et le bon Dieu va relever votre âme avec Jésus. Et vous allez dire aussi, qui cherchez-vous? C'est moi. Qui cherchez-vous? Je cherche ton âme, je cherche ta confiance, je cherche ton amour. Fais confiance, avance dans cet état de désolation. Pose des actes de foi, pose des actes d'espérance, surtout des actes d'amour. Et je ferai, au-delà de ce que tu peux penser. Alors, très important, nous pouvons méditer souvent. On peut dire, même il y a des jours, c'est très bien d'y aller plusieurs fois sur le mystère de l'agonie. Pourquoi? Parce que dans l'agonie, il y a déjà la passion en germe. Et quand on vit bien ces agonies intérieures, les agonies extérieures, on les vivra bien. Il faut d'abord bien vivre la force intérieure, la désolation, la tentation, l'isolement, la sécheresse du cœur. Et après, le bon Dieu donne des forces pour l'extérieur, quel que soit ce qu'on a à faire. Sûr, ça. Alors, pas... Vous voyez, c'est le mois du précieux sang. Bien méditer ce précieux sang. Ce précieux sang, il est pour moi. Ce sang et cette eau, c'est pour moi. C'est l'arme de Jésus, c'est pour moi. Pourquoi? Pour que j'ai une liqueur de force. Avec tout ce que j'ai à faire de combat intérieur et extérieur, j'ai ce qu'il faut dans l'agonie de Jésus. Ce Jésus, qui cherchez-vous? C'est moi. Oh, on le reconnaît pas. Et tout à l'heure, il était tout broyé, en train de pleurer. Hein. Et maintenant, soumis à son père. C'est pas la pusillanimité chez notre Seigneur, évidemment. Hein. Mais il sent sa faiblesse humaine. Et même la crainte de la mort, elle a existé aussi, bien sûr. Moins que la crainte des péchés et de ce qu'il y avait à payer pour le péché. Et du dégoût que lui causait tous ces actes qui lui étaient comme attribués, comme si c'était lui qui était devenu le grand coupable universel. Et le grand qui doit expier, les grands expiateurs universels. Alors vous le savez ensuite, on l'arrête. C'est le reste de la passion. Attention, stop. Bon. À 100 mètres. 150 mètres. Bon. Le reste de la passion. Nous continuons. J'espère que je pourrai revenir dans une ou deux autres instructions sur cette agonie. Il y a tellement à en tirer de cette agonie. Tellement. Le Seigneur se laisse arrêter. Et là, donc, va passer devant tous ses juges. Anne, Caïphe, et surtout Pilate avec tous ses atermoiements. Ah, il ne sait pas quoi faire. Quelle force, le silence de notre Seigneur. Jésus sautem tajepat. Jésus se taisait. Se taisait. Silence. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et les autres, c'est ceux qui m'ont livré à toi qui sont plus coupables que toi. Et la contemplation de l'injustice. Il n'est pas coupable, mais je vais quand même le faire flageller. D'un petit peu de sang à la troupe, là. Un petit peu de sang, ça, bon. Le sang, ça a fait que réveiller. Et cette malice humaine. Donner un petit peu à nos passions. Et quand on donne un petit peu à nos passions, elles deviennent frénétiques. Non. A priori, lutter contre la passion, a priori, tout de suite. Pas donner sucre. Parce que sucre, encore plus de sucre. Et après, le bazar dans l'âme. Ou dans les âmes. Finalement, donc, notre Seigneur condamné. C'est souvent repris dans les chemins de croix. Vous aurez un chemin de croix durant la retraite. Vendredi, jeudi, je ne sais pas. Je ne sais plus quel jour. Il me semble qu'il y a un chemin de croix. J'ai vu vaguement ça. Peu importe. En tout cas, c'est souvent médité à la première station. Un coupable condamné. Un innocent condamné. Pour un coupable, moi. Jésus-Christ à ma place, pour moi, comme si c'était lui. Tel péché de ma vie, tous les péchés de ma vie, comme si c'était lui qui avait fait ça. Comment vous avez fait ça, Seigneur, pour m'aimer à ce point? Tout ce que j'ai fait de mal, à tel péché, vous avez fait comme si c'était vous qui l'aviez fait, et vous avez payé le prix. Est-ce qu'au moins, je ne lui donnerais pas au point un petit peu d'amour de mon cœur, un petit peu de désir de me convertir, un petit peu de désir de haïr ce péché que je fais, ou que j'ai fait, ou auquel je suis attaché? Il a vécu à ma place, comme si c'était moi. C'est vraiment mon frère, Jésus-Christ. Vraiment mon frère. Ah, quel chic frère, oui. Chic frère divin, frère aîné. Pour moi, à ma place, en mon nom. Belle prière de Saint François-Xavier. Je ne vous aime pas pour le ciel dont vous récompensez ou pour l'enfer dont vous allez me punir. Mais je vous aime à cause des clous, des fouets, tout ça. Pour moi, à ma place, comme si c'était vous qui aviez fait ce que j'ai fait de mal. Et je ne vous aimerai pas après ça. Oh, que j'ai le cœur dur. Oh, que je suis méchant. Quelle malice m'habite. Flagellation, couronnement d'épines, vous savez, c'est un casque. Le père Lamy qui avait essayé un casque retourné, comme ça, un casque retourné, une haie d'épines. Couronnement d'épines. Et alors, c'est très beau, très impressionnant. Il y a deux ans, deux, trois ans, c'est le père dans les années 30, un père dominicain qui avait trouvé ça, et on avait trouvé, je ne sais plus sous quel, je ne sais pas si sous l'endroit où il y a eu la Seine, ou un autre endroit, ou la forteresse Antonia, je ne saurais pas trop vous dire, j'ai plus ça en mémoire. Mais on s'aperçut donc que sous la forteresse, il y avait une salle de garde, et sur la salle de garde, sur le sol de la salle de garde, il y avait un damier. Un damier. Et sur ce damier, il y avait un endroit du damier où il y avait un roi, comme un jeu de dames ou d'échecs. Et on s'est demandé ce que c'était. Et alors les Romains pratiquaient ce qu'on appelle le jeu du Basileus, qui est roi en grec, je crois. Basileus. Qu'est-ce que c'était que ça? Chaque année, pour honorer une de leurs fêtes païennes, on prenait au hasard, au dé, on tirait un soldat qui devait être le Basileus, dont elle allait le promener sur l'échiquier, et quand il arrivait, grâce au jeu qu'on faisait, etc., quand il arrivait sur cette portion, sur cette place du roi, on le mettait à mort. Cette année, chic, on va pas prendre un Romain, on va prendre un pauvre juif, un pauvre fou mystique, le Christ. Alors, il pense que c'est ça, le jeu du roi, là, qu'on a vu, notre Seigneur bafoué. C'est donc, il pense, hein, ce père dominicain, et donc j'ai appris ça il y a 4-5 années, ça semble assez conforme. Donc cette année-là, merveille, pas besoin de prendre un Romain, on va prendre ces Juifs qu'on n'aime pas, qu'on méprise, on va prendre ce Juif-là, ce demi-fou-là qui se prend pour fils de Dieu. Et c'est lui qui est le Basileus. On va pas le mettre à mort, mais au moins, on va le maltraiter. Donc on va l'adorer, ah tu es roi, etc. Il y a les coups de bâton, les coups sur le... coup sur le tête d'épine, etc. Et morceau de chiffon rouge, la salle, etc., etc. Puis après, on montre, voici l'homme, le fils de l'homme, vrai roi, il porte nos péchés. Ça a beaucoup impressionné un bienheureux polonais, Albert Chmielowski, le bienheureux Albert, qui a fondé les Albertins en Pologne, et il a représenté le Christ bafoué. Très très belle je la retrouve. Et on voit très bien notre Seigneur, hein, tout couvert de sang, plus couvert de sang encore que son manteau rouge. Voilà l'homme, à mort. Et plus il demande, plus à mort. Et encore, pourquoi mettrai-je à mort votre... Oui, mais la mort, etc. Et il fit droit à leur requête, à leur demande. Alors ensuite, ben vous savez, notre Seigneur prend non pas toute la croix, mais semble-t-il, d'après le docteur Barbet, et puis, bon, ça semble assez conforme, même pour le Saint-Suaire ou autre, je sais. Donc, la barre transversale, pour 40 à 50 kilos déjà, physiquement. Et alors, ce qui est beau de notre Seigneur, enfin, c'est que, bon, tous les cris qu'il entend sur le chemin de la croix, c'est que notre Seigneur, nous voyons, nous sommes sensibles, c'est normal, aux douleurs corporelles, notre Seigneur. De même, quand on voit notre Seigneur qui crie « j'ai soif », on a tendance à opposer un peu les douleurs corporelles puis la douleur intime. Mais non, la douleur corporelle, les maltraitements corporels que notre Seigneur a, sont que l'expression de sa douleur intérieure qu'il accepte, vous voyez. Elles sont comme spiritualisées, toutes ces douleurs. Elles sont réelles, hein, pas spirituelles pour dire, pas réelles. Mais elles ont toute l'intensité, toute l'acuité d'une âme. On dit qu'un coup d'aiguille pour notre Seigneur à cause de sa sensibilité, c'est comme un coup de lance, un coup d'épée. Pourquoi? Parce qu'il y a une sensibilité beaucoup plus fine que tous les hommes. Il sent beaucoup plus, déjà dans sa sensibilité. Et puis son intelligence, comme chez les êtres humains, quelle est la différence entre une douleur animale et une douleur humaine? L'animal, on pourrait dire, souffre moins, il souffre peut-être plus. C'est plus impressionnant, peut-être, l'un animal, mais il n'a pas l'intelligence qui vient lui faire sentir l'injustice de cette douleur, le côté aigu de cette douleur, le côté qu'on ne peut pas se passer de cette douleur, le côté qu'on ne peut pas échapper à cette douleur. Et donc la douleur humaine, et a fortiori la douleur humaine et divine et humaine de notre Seigneur, beaucoup plus intense, beaucoup plus intense. Il voit l'injustice de ses coups. C'est pas lui qui devrait porter tout ça, il le fait par amour, mais c'est pas lui. Alors les chutes de notre Seigneur, le sang qui répand sur tout le chemin de la croix, on dit que c'est l'épaule qui a le plus souffert physiquement, parce que ça avait découvert les os qui sont là sur l'épaule. Ça frottait, le bois de la croix frottait. On dit que c'est sa douleur physique la plus intense, des nerfs. Le docteur de Clercq, à la suite du docteur Barbet, il donne la suite. Bon, ne regardons pas les douleurs physiques que pour les douleurs physiques, mais tout l'amour qui est derrière. Un diagnostic médical qui vient compléter le diagnostic théologique de saint Thomas, qui dit qu'il a souffert en toutes choses, dans ses sens, dans l'intensité de la douleur, et physique et morale. C'est ce que dit le médecin. D'abord, il y a une liste, hein. D'ailleurs, il y a des termes, je ne sais même pas ce que c'est pour un être médical. Le froid, la faim par le jeûne absolu. Il n'a pas mangé depuis hier soir, depuis la scène. Pas de bien manger. La détresse psychologique intense avec angoisse, la sueur de sang, qui donne une grande soif, une grande fièvre, les contusions diverses, des coupures et des chutes, la fracture du nez, qu'on voit très bien sur le Saint-Suaire. J'ai peut-être pas le nombre qu'il faut, si vous voulez, vous pourrez prendre, c'est joli, c'est bien représenté. Les hémorragies suite à la flagellation, au couronnement d'épines, à la crucifixion, la détresse du cœur et des poumons, la pleurite, l'œdème pulmonaire dû à la flagellation, la péricardite due à la flagellation, un œdème du liquide qui entoure le cœur, la suffocation respiratoire, asphyxie partielle sur la croix, entraînant un thorax en hyperextension, l'épigastre, j'avais parti le ventre là, rentré, l'hypogastre distendu, donc action sur les nerfs, la lésion du nerf médian, dont parle beaucoup le docteur Barbet, par le clou des poignets. Ça fait éclater la douleur dans le cerveau. La lésion des nerfs par le clou dans les pieds. Alors ça, c'est que les infirmières ou les médecins, là, une jaunisse hémolytique entraînant une anémie hémolytique. Bon, en tout cas, jaunisse et anémie. Une anémie secondaire. La déshydratation totale. Hémoconcentration, je suppose concentration du sang. Hyperpotassémie, qui doit entraîner certaines fièvres. Altération de la thermorégulation. Tétanie musculaire des membres, les muscles qui sont en tétanie, syndrome, alors là je sais pas, c'est que les infirmières ou les médecins qui savent ça, syndrome de déconditionnement et collapsus orthostatique. Bon, ça c'est plus technique. Du point de vue physique, l'affaiblissement va mener Jésus jusqu'à l'exténuation la plus totale, soutenue par la nature divine, de sorte qu'aucune sécurité inscrite dans l'organisme ne fonctionne. Il ne sera pris d'aucun malaise physique dû à la fatigue ou au jeûne ou au manque de sommeil, d'aucun évanouissement qui est une protection organique. Il veut vraiment souffrir et il donne des forces à son corps pour souffrir. C'est d'ailleurs très fort quand on analyse les sciences de notre Seigneur Jésus-Christ, sa science divine, sa science humaine, sa science angélique infuse et puis sa science humaine. Toutes ces sciences ne servent que pour mieux aimer et pour mieux souffrir. C'est pas des sciences qui servent à dominer, elles lui ont servi pour l'enseignement, certainement, dans tout son enseignement qu'il nous a donné, mais surtout spécialement, note les saints auteurs spirituels, en vue de mieux aimer, mieux souffrir, mieux pénétrer l'intensité d'amour que réclame le péché. Aucun évanouissement qui est une protection organique permettant naturellement d'échapper à l'intensité d'une douleur ou à une agression trop forte. Ni d'un coma qui, dans son cas, était une étape normale menant vers la mort et qui aurait abrégé fortement les souffrances et la durée de la passion. La nature divine de Jésus lui a permis d'échapper à tous ces courts-circuits, entre guillemets, afin de pouvoir affronter la pire des passions dans sa totalité et dans une globalité de formes de souffrance telle qu'aucun humain n'aurait pu en supporter une faible partie sans qu'aucun de ses mécanismes naturels ne fonctionne. Pour le physique. Et ça, c'est que le reflet de ce qui se passe intimement dans son âme, où il y a l'abandon. Pourquoi avez-vous abandonné? Certes, il récite sur la croix, il récite le psaume 21, qui se termine par la victoire du Messie. Mais quand même, l'abandon, il l'a expérimenté. L'abandon de son apparent, de son père, face au péché, au pécheur qui porte tous les péchés des hommes. Ensuite, donc le chemin de la croix, la crucifixion, les 3 heures en croix. Les 3 heures. Alors les trois heures en croix, quand on vraiment on s'attarde vraiment à ça, il faut vraiment se prêter très 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 proche de la Sainte Vierge Marie. Parce que c'est quelque chose, vous vous en êtes rendu compte, ceux qui ont... J'ai pas vu, moi, le film La Passion. On m'a raconté, seulement. Mais c'est quelque chose d'insupportable. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les gens... Vous voyez, le paradoxe de notre monde. Ah, on va pas... Oh, il y a trop de sang dans le film de La Passion. Mais on va voir des horreurs de dessins animés japonais et puis des horreurs du satanisme et du luciférisme. Mais La Passion de notre Seigneur, il y a trop de sang, trop de sauce tomate. La méchanceté, la perversité de notre monde, et c'est certainement pas le monde tout seul, c'est le prince qui est derrière. Et ça va impressionner nos enfants. Si l'enfant a la foi et les formes, il y a des tempéraments plus des fois plus sensibles que d'autres, c'est vrai. Mais il y a la grâce, il y a la foi. Et l'enfant, les enfants, ils aiment qu'on leur parle de la passion. La plupart des enfants, et quand il y a des détails, ils sont pleins d'amour, les enfants, quand on leur parle de la passion. Pas avoir peur de montrer, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et leur dire, c'est le péché qui fait ça. Et l'enfant, il comprend, il saisit tout de suite, parce qu'il est pur, il est innocent. Et il a parfois une force d'âme plus forte que celle des adultes. Parce qu'il est moins touché par le péché. Bon. Ah, alors parlez pas de la passion, et pas du sort, et puis pas de l'enfer, parce que mon petit fait des cauchemars. Parce qu'on lui a proposé ça, sans lui montrer à côté l'amour de Dieu qui est avec. Alors il a retenu une image émotive, puis il a pas retenu ce qui va être profond dedans. Et c'est peut-être votre faute, vous l'éduquez pas comme il faut, pour qu'on puisse lui parler de la passion, avec le détail qu'il faut adapter à son âge. Est-ce que le bon Dieu s'est demandé pour les petits-enfants de Fatima s'il fallait leur parler de l'enfer, pas parler de l'enfer? Ah, c'est peut-être des enfants plus purs et qui priaient et qui n'avaient pas la télé et je sais pas quoi. Et le monde perverti, d'accord. Mais l'enfer l'a montré. A fortiori, la passion, qui est pleine d'amour, qui est un mystère d'amour et de douleur. Donc la passion, eh bien, il faut la contempler près de Notre-Dame. Près de Notre-Dame, tout près de Notre-Dame. Voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Vous irez de reprendre ça un peu dans vos mystères douloureux. Voilà, ça peut être bien de dire un peu les mystères douloureux pendant ce mois du précieux sang, pendant le... C'est mardi aujourd'hui, donc mardi ça tombe bien. Vous pouvez continuer même les autres jours. La passion, dans la passion, il y a toutes les grâces et mystères joyeux et toute l'attente et l'espérance de tous les mystères glorieux. Plus nous serons unis à la passion... Et plus nous goûterons la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, parce qu'on en verra le prix. Pourquoi la résurrection? Parce que la passion. Pourquoi l'ascension? Parce qu'il y a eu l'humiliation. Pourquoi la descente de l'Esprit Saint? Parce qu'il y a des douleurs d'amour, notre Seigneur, qui nous a mérité l'Esprit Saint. Pourquoi l'assomption de Notre-Dame? Parce qu'elle a souffert plus qu'aucune autre avec son Fils. Pourquoi son couronnement? Parce qu'elle a été couronnée intérieurement par la douleur. Il y a ce contraste. Et dans ce contraste, j'ai la force, j'ai la grâce. Voilà. Arrêtons-nous là pour ce soir.